Aviva. Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette émission à Radio Aviva. Nous nous retrouvons à l'occasion de la 35e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, organisée par le CLEMI, le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui permet chaque année à des écoliers, collégiens, lycéens de mieux connaître l'univers des médias, de former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et forger leur identité de citoyen, et ce depuis plus de 30 ans. Nous avons ainsi le grand plaisir d'avoir à Radio Aviva des élèves de première de la cité scolaire Françoise Combes de Montpellier, accompagnés de plusieurs enseignants que nous découvrirons tout au long de cette émission. Et en ce moment, dans le studio, nous accueillons Emmanuel Charles, professeur d'histoire. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir organisé la venue de vos élèves et bonjour à nos lycéens qui vont tour à tour parler de leurs travaux sur le thème de l'info sur tous les fronts. Emmanuel, vous êtes professeur d'histoire. Avez-vous, par le passé, engagé vos élèves dans un projet de semaine de la presse? Et d'ailleurs, est-ce que la discipline que vous enseignez, elle est concernée par l'information et les médias?
Oui, je suis enseignante en histoire, géographie et EMC, enseignement moral et civique, ainsi qu'en spécialité AGGSP au lycée, c'est-à-dire histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Ce sont donc des matières très éclectiques qui permettent de pouvoir s'engager dans divers projets en lien avec l'EMI et donc de travailler sur l'information et les médias, ce qui est souvent l'occasion de développer pour nous l'esprit critique chez les élèves. En classe, on peut en effet analyser des extraits d'articles ou de une de presse, des extraits de journaux télévisés ou même des anciennes actualités en histoire. On peut proposer de réaliser des fiches d'écoute d'émissions radio en podcast pour approfondir les connaissances sur une thématique ou encore s'exercer à rédiger des articles de fond sur un thème abordé dans le programme. Et plus particulièrement, le programme de la spécialité AGGSP en première consacre un thème entier sur s'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Cette année, les élèves du lycée Françoise Combes de Montpellier, dans lequel j'enseigne, ont pu participer au 35e Festival international de photojournalisme Visa pour l'image et rencontrer le photoreporter Pascal Maître, qui a travaillé avec de prestigieuses publications. Et enfin, plus particulièrement pour la semaine de la presse, les élèves de la spécialité AGGSP préparent une revue de presse. Ils ont 2 heures pour compulser les journaux du jour et enregistrer leur revue sur leur téléphone. Les meilleurs seront sélectionnés et passeront à la radio d'établissement. Et cette année, je vais peut-être leur imposer comme fil conducteur l'Union européenne et la démocratie.
Alors passons à présent la parole à nos lycéens de première option, comme vous avez dit, HGGSP, qui se sont penchés plus particulièrement sur l'info dans un pays en guerre. Alors Bérénice, tu as avec Ilan réfléchi aux différences qui peuvent exister entre reporters de guerre et journalistes de guerre.
Alors oui, en effet, un reporter de guerre est un journaliste qui se trouve sur le terrain, dans les zones du conflit plus précisément, pour pouvoir récolter les informations directement. Tandis que le journaliste de guerre est celui qui fournira des informations complètes au public sur le conflit actuel dû à son expertise dans le domaine. Mais en termes de diplôme et de formation, les deux professions se rejoignent. Mais au moment de se spécialiser, le reporter de guerre aura une formation plus spécifique qui lui apprendra à avoir un comportement adéquat sur le terrain. Cependant, leur travail se complète car le journaliste peut en effet utiliser le travail effectué par le reporter de guerre pour illustrer ses propos et par la suite ce même reporter peut rebondir sur les propos du journaliste pour confirmer ou non ses propos.
Et toi Noah, avec Andy, tu t'es intéressé à la profession de reporter de guerre. Et parle-nous de ce métier.
Le métier de reporter de guerre, c'est partir dans un pays étranger qui est en guerre pour prendre des photos, filmer des moments et faire des interviews. Pour informer sur la situation des personnages dans ces pays en guerre et relayer à son pays la situation des pays en guerre. Cependant, les reporters de guerre prennent des risques. Nous avons rencontré Hélène Bourgon, qui est une journaliste indépendante qui habitait en Syrie et qui a couvert les manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Elle nous avait dit que c'était difficile, qu'elle ne pouvait pas interviewer des personnages dans la rue sinon elle se faisait arrêter et renvoyer en France. Donc elle invitait des gens chez elle pour les interviewer le matin et elle se mettait sur son balcon pour enregistrer les bruits des manifestations. Son téléphone était surveillé, donc elle ne pouvait pas envoyer les informations. Quand son amie est venue, elle lui avait dit de laisser son téléphone pour qu'elle puisse envoyer des informations en France.
Et toi, de ton côté, Ludwig, tu as travaillé avec Satine et Cerise sur les risques du métier de reporter dans un pays en guerre.
Alors oui, les risques pour un reporter de guerre, on aura par exemple des dangers mortels, territoriaux ou encore sur son travail. Sur un champ de bataille, un reporter de guerre risque d'être blessé ou tué accidentellement. Dans un pays dictatorial, se faire capturer et torturer ne serait pas improbable. D'ailleurs, dans beaucoup de pays sous régime autoritaire, la mort est omniprésente pour un reporter. S'il est découvert, qui sait ce qu'il subira ? Bien sûr, si le reporter vient d'un pays puissant, alors le plus grand risque sera de se faire arrêter et expulser du pays. D'autres risques se trouvent parmi les habitants. Par exemple, le photoreporter Pascal Maître nous a raconté lors du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image qu'il avait failli se faire kidnapper, mais que son fixeur lui avait sauvé la vie. Le métier de reporter de guerre est un métier à risque. Le métier est extrêmement dangereux, mais nécessaire pour l'information.
Et toi, Othman, tu as réfléchi, je crois. Tu as réfléchi avec Jules sur ce qui peut motiver un reporter de guerre, sachant qu'il peut être exposé à des risques.
Alors oui, le reporter de guerre est exposé à des risques, mais la motivation qui anime un reporter de guerre est avant tout la passion et l'envie de vouloir dénoncer au grand public ce qui leur est caché. Cet engagement nécessite un grand courage car ils risquent constamment leur vie et est sûrement lié à un sentiment empathique. En effet, un reporter de guerre peut voir la différence entre la chance qu'il possède et d'autres personnes dans un pays de guerre, alors il essaie de mettre cette chance au profit de ces personnes. Ces personnes sont obligées de vivre ça et ils ne peuvent rien y faire, ce qui suscite l'engagement du reporter de guerre dans sa mission. En conclusion, si le reporter de guerre est prêt à s'exposer à de tels risques, c'est parce qu'il est conscient que ce que vivent les populations locales au quotidien et qu'il souhaite dénoncer, d'après le témoignage du journaliste Frédéric Gerchel au journal Libération.
Vraiment extraordinaire, tout ce que ces jeunes ont pu produire hein, comme témoignages, comme textes, comme écrits. Et tout ceci, je crois que ça avait été commencé au CDI avec vous, Emmanuel, et avec Florence Carle, la documentaliste. Donc c'est merveilleux, voilà. Bravo, bravo à vous tous. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter pour une petite pause musicale. Et nous nous retrouverons tout de suite après pour continuer à présenter le travail de nos lycéens de la cité scolaire Françoise Combes dans le cadre de la 35e semaine de la presse à l'école. À tout à l'heure.
Aviva ! Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les plombs. Mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu. Devenir feu. Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait si l'enfer. On vivra vieux, puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous.
Nous reprenons notre émission en accueillant à présent Florence Carle, professeure documentaliste à la Cité scolaire Françoise Combes de Montpellier. Florence, bonjour.
Bonjour Liliane.
Et avec d'autres lycéens qui nous ont rejoints dans le studio de Radio Aviva pour présenter leur travail sur la désinformation dans une démocratie dans le cadre de la 35e semaine de la presse à l'école. Alors Florence, vous êtes professeure documentaliste à la Cité scolaire Françoise Combes. En quoi consiste votre fonction et quel est votre rôle dans l'éducation à l'information et aux médias ?
Alors les missions des professeurs documentalistes sont très variées. Nous gérons et organisons les ressources documentaires de l'établissement, qu'elles soient numériques ou papier. Nous accueillons les élèves, nous proposons des animations culturelles et aussi nous avons des missions d'enseignement. Nous formons les élèves à la recherche documentaire et nous travaillons les compétences informationnelles avec eux. Alors l'éducation aux médias et à l'information se fait essentiellement sur projet et la semaine de la presse et des médias est un moment fort sur lequel on peut s'appuyer pour proposer ses projets. La production d'informations pour un journal, une radio ou n'importe quel média est un exercice extrêmement formateur pour les élèves car cela permet de travailler toutes les compétences infodocumentaires comme apprendre à s'informer, développer son esprit critique, produire et communiquer une information. Donc c'est toujours un projet très complet.
Alors on va écoutez, à présent, les lycéens qui ont travaillé autour de la désinformation dans une démocratie, et nous allons commencer par Raphaël. Penses-tu que les réseaux sociaux soient plus particulièrement touchés par les fausses informations ?
Alors, les médias garantissent une information sourcée et un travail de rédaction, tandis que les réseaux sociaux sont des plateformes où les gens partagent du contenu entre eux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, eux, sont particulièrement touchés par les fausses informations en raison de leur vitesse de propagation. Souvent, les informations se propagent rapidement sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Twitter. Elles sont donc partagées instantanément et sans vérification, ce qui conduit à la fausse information. Les algorithmes de ces applications favorisent souvent la diffusion de fausses informations. Les utilisateurs sont donc influencés et souvent les partagent. Les plateformes de réseaux sociaux essayent de lutter contre ce problème en mettant en place des outils pour signaler. Des médias arrivent aussi sur les réseaux sociaux comme Hugo Décrypte, Brut ou encore d'autres qui sont des médias audio et visuels et qui grâce à eux limitent la propagation de fausses informations. Cependant, il est donc important de vérifier les sources des informations avant de les partager.
Mais c'est parfait tout ça. Ça y est, on a mieux compris ce que c'était. Alors, Eline, tu as travaillé sur le thème de ces fake news dont nous a parlé Raphaël, mais de quoi s'agit-il ? Quelle est ton idée ?
La désinformation consiste à utiliser des techniques d'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travertir des faits. Pour s'intéresser aux problèmes liés à la désinformation, il faut comprendre les causes qui mènent à cette même désinformation. La désinformation peut donc s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, le biais cognitif. En effet, les gens favorisent les informations qui confirment leurs croyances. Deuxièmement, les réseaux sociaux avec des algorithmes qui privilégient le contenu engageant, pas forcément véridique. Et enfin, la littératie numérique qui reflète le manque de compétences pour évaluer la fiabilité des sources en ligne. Les conséquences de la désinformation sont multiples et impactent toute la population, même si certains individus sont plus exposés. Cette différence d'exposition, elle s'explique par l'exemple, par l'ignorance de certains individus par rapport à la propagation de fake news. Il est donc important de faire de la prévention sur ce sujet, notamment aux jeunes générations plus exposées à l'info directe via les réseaux, par exemple, mais aussi aux générations plus âgées, moins informées sur l'usage du numérique pour s'informer.
Belle prévention. Alia, avec Lola et avec Gracia, tu t'es posé la question de savoir s'il était possible de lutter contre cette désinformation individuellement ou tous ensemble.
Alors oui, donc la désinformation, comme l'a définie Aileen, est un ensemble de pratiques et techniques visant à influencer l'opinion publique en diffusant volontairement de fausses informations. Cependant, elle n'est pas à confondre avec la mésinformation, qui est, elle, la propagation involontaire de fausses informations. Et donc, pour combattre cette désinformation, nous pouvons nous y prendre individuellement comme collectivement. Individuellement, avec la vérification notamment des sources que nous avons. Et donc, cette vérification des sources va donc prévenir à la bulle informationnelle dans laquelle l'internaute peut entrer. Donc, collectivement, il y a aussi une éducation aux médias qui est de plus en plus mise en place par de nombreuses lois et réformes dans nos sociétés. Donc cette éducation-là commence dès le plus jeune âge et vise à combattre donc collectivement contre ce fléau qui nous impacte directement, nous consommateurs quotidiens de différents médias.
Je trouve que c'est très rassurant de penser qu'on peut justement lutter contre cette désinformation, comme tu disais, Alia. Alors on va terminer avec Paola, qui s'est demandé avec Ambre et avec Zoé si malgré la censure, les journalistes arrivaient à relayer les informations.
Alors la censure existe partout à certains degrés différents, en commençant par l'extrême des régimes autoritaires comme la Chine, jusqu'à l'autocensure des journalistes, que ce soit dans les journaux indépendants ou dans les chaînes appartenant à de grandes compagnies. Dans certaines mesures, cela est une entrave à la liberté de la presse, mais dans la majorité des cas, un journaliste arrive toujours à communiquer une idée principale. Par ailleurs, il existe une balance plus ou moins flexible entre la censure imposée par la hiérarchie ou la censure qui s'impose à un journaliste lui-même. Par exemple, un journaliste ne peut pas se permettre de divulguer des informations sensibles pour sa propre protection ou celle de son pays. Le gouvernement pose des limites à la presse. Il est interdit d'avoir des propos violents, de la discrimination ou de diffamer qui que ce soit.
Tout à fait. On est bien tout à fait d'accord avec toi. Alors cette qualité de production, on la doit au travail qui a été fait avec les professeurs et les élèves au CDI de la cité scolaire Françoise Combes, avec 17 élèves spécialités, alors que je ne me trompe pas dans ce sigle, HGGSP, accompagnés donc de Florence Carle, professeur documentaliste, et d'Emmanuel Charles, professeur d'histoire. Merci à vous tous. Notre émission se termine. Alors merci tout d'abord à Renaud Lozard, proviseur de la cité scolaire Françoise Combes, pour son soutien à ce projet. Merci donc à Emmanuel et Florence, nos professeurs, qui ont permis à leurs élèves de vivre cette expérience radio. Un grand merci à nos lycéens qui se sont succédés en enregistrement. Je ne peux pas les citer tous, mais je voudrais quand même aussi dire merci à ceux qui ont travaillé à la réalisation de cette émission, mais qui n'ont pas pu entrer en studio. Sans oublier nos techniciens. Alors je vois Kylian, je vois Mathieu qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous tous. À bientôt pour une prochaine émission à Radio Aviva.
Aviva! C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.